Entre la Bretagne et le Cotentin, au fond du golfe normand-breton, la baie du Mont-Saint-Michel est un site d'intérêt géologique exceptionnel. En bordure de baie, sur un îlot granitique, se dresse la silhouette du mont. Son élégante abbaye, modelée par plus de 10 siècles d'histoire, est l'un des monuments les plus visités de France. Surnommée la merveille de l'Occident, elle a son écrin d'eau, de sable, de verdure, les grèves infinies, aux teintes miroitantes et variées. Ce sont elles qui vont retenir notre attention. La diversité des dépôts, avec leur large panoplie de structures et de peuplements particuliers, la dynamique des sédiments soumise au rythme des marées, font de ce milieu un modèle de sédimentation actuelle de régions tempérées unique au monde. Examinons d'abord le rôle primordial des marées. Leur amplitude atteint 15 mètres en période d'équinoxe. Elles sont ici parmi les plus fortes du monde. À marée montante, la nappe d'eau s'avance sur les grèves en une barre argentée. Elle progresse à la vitesse moyenne de 50 à 70 cm par seconde. En quelques heures, elle aura recouvert toute la baie, une surface d'environ 250 km², après un parcours atteignant localement 18 km. Les eaux marines s'engagent dans toutes les dépressions, notamment dans les chenaux, où l'accélération des courants détermine souvent un mascaret bouillonnant. Le flot atteint alors une vitesse de 2 à 3 mètres par seconde, soit 7 à 10 km à l'heure, ce qui est impressionnant, mais reste loin de la vitesse du cheval au galop des manuels scolaires. Partout, la mer s'avance avec le flot. Elle ne viendra baigner le mont qu'en période de grande marée, 2 fois par mois. Des sédiments sont mis en mouvement et transportés vers l'amont, charriage près du fond, et surtout en suspension dans des eaux troubles et turbulentes. Il s'agit de matériel détritique. Une fraction quartzo-argileuse est mêlée à une fraction d'origine organique, des débris coquilliers principalement. La teneur en calcaire varie de 40 à 70%. Peu à peu, les eaux s'étalent sur les grèves, encerclent les bancs sableux, puis les recouvrent. Ce qui constitue l'un des plus grands dangers de la baie. En forte marée, les zones les plus élevées où se trouvent les herbus sont submergées à leur tour. Puis, à l'approche de la pleine mer, l'agitation du milieu s'apaise. Des sédiments de plus en plus fins se déposent. Les eaux turbides, particulièrement chargées près du rivage, se décantent. Le calme s'établit, c'est l'étal, tout semble figé. La mer a tout recouvert. Seul se détache l'îlot de Tomblaine et le mont, dans un décor marin qui se renouvelle au fil des jours. Mais la baie est avant tout mouvement. L'étal ne dure qu'un instant. Quelques minutes plus tard, le reflux se déclenche. Peu à peu, les eaux se retirent des herbues. Localement, de petites chutes au fonctionnement éphémère apparaissent. Du matériel sédimentaire est remis en mouvement, puis entraîné vers l'aval. Insensiblement, les eaux s'abaissent, abandonnant une partie de leur charge par adhérence, un peu à la manière d'une baignoire qui se vide. Sur le haut des grèves, des gaz emprisonnés à pleine mer, sous la nappe d'eau, s'échappent ou engendrent la formation de petits dômes, sortes de boursouflures superficielles. Après une demi-heure, les herbues sont découverts. Un réseau de drainage se dessine. Les courants s'y accélèrent, mais atteignent rarement des vitesses aussi élevées qu'au flot. La baie se vide. Et les étendues infinies des grèves, sillonnées d'un chevelu de chenaux au tracé incertain et changeant, réapparaissent. Près de ces lignes d'eau se rencontrent les célèbres sables mouvants de la baie. Il s'agit de dépôts sableux, parfois vaseux, gorgés d'eau, qui se fluidifient sous les pas. Ils présentent un danger certain. Ce balancement permanent des eaux se traduit par un bilan sédimentaire positif considérable. Aux abords du Mont-Saint-Michel, dans la partie estuarienne, on évalue à 2000 m3 l'apport de chaque marée, environ 3% de la charge solide en mouvement dans les eaux. Ces dépôts se localisent surtout dans la partie supérieure de l'estran, où progresse une végétation de plantes halophiles. Ainsi se forment les herbues. Ces herbues favorisent à leur tour la fixation des sédiments qui menacent aujourd'hui l'insularité du Mont-Saint-Michel. Dans la baie, on observe une répartition graduelle des sédiments des plus fins aux plus grossiers. Cette distribution schématique est due à l'énergie croissante des marées de la côte vers le large. Les zones inférieures sont en permanence submergées. Examinons le domaine des sables fins qui occupe la partie inférieure de la zone de balancement des marées. C'est le terrain privilégié de l'ostréiculture et de la mytiliculture. Aux innombrables parcs à huîtres de la région de Cancale, dont la géométrie évoque certains villages antiques, succèdent vers l'est les alignements réguliers des bouchots à moules entourés à marée basse d'eau opalescente amenée par le reflux. De création récente, la mytiliculture est devenue la première activité maritime de la baie. Avec une récolte de 5000 tonnes par an, elle assure maintenant 10% de la production française. Cette expansion est due en grande partie à la qualité des eaux très riches en substances nutritives apportées par le flot. Ici, c'est la mer qui commande. Les bouchots ne sont exemptés qu'en période de vives eaux, et encore pendant seulement 2 ou 3 heures par jour. Les professionnels font alors 2 marées par 24 heures, et quelquefois 1 de nuit. Bouchots et parcs à huîtres sont implantés sur des sables fins coquilliers, où abondent les annélides, principalement des lanis et des arénicoles dont le tortillon trahit ici la présence. Les lanis sont des formes sédentaires aux tubes arénacés prolongés d'un panache en éventail. En peuplement serré, ils contribuent à la fixation des dépôts sous forme de bombements sableux. Dans cette partie inférieure de l'estran, prend place une formation de type récifal, le banc des Hermelles. Les Hermelles sont des annélides aux tubes arénacés jointifs, constitués de grains de quartz et de débris coquilliers agglomérés. Ils forment des masses construites de 50 cm à 2 mètres de haut, qui s'étendent sur 4 km carrés. Les Hermelles se développent ici dans une zone de forte turbulence sur un sédiment fixé par les lanis, avec une faune d'accompagnement très riche. Une dune sableuse accidentée de grandes rides est associée à leur récif, qui est l'un des plus importants d'Europe. Occupant les parties basses des grèves, les sables se prolongent jusqu'aux immenses plages du Cotentin exposées aux fortes houles. Ces dépôts présentent des champs de rides très diversifiés. Méga-rides au niveau des chenaux, rides de courant, rides d'oscillation et toute une variété de formes plus complexes résultant d'interférences ou d'un façonnement en plusieurs temps. L'ensemble de ces figures mécaniques apporte des références précieuses pour la reconstitution des environnements anciens. Un peu plus haut, la zone médio-littorale est occupée par de grandes étendues de sablons qui font place vers le rivage à des dépôts sablo-vaseux ou même vaseux dans l'ensabrité située au sud de Cancale. Les sablons constituent les vastes grèves de la zone estuarienne aux abords de l'îlot de Tomblaine. En bordure des chenaux, les pêcheurs disposent parfois des batteries de nasses de crevettes qu'ils viennent relever à marée basse de jour comme de nuit. Le sablon, sédiment homogène et fin, contenant environ 50% de calcaire sous forme de débris coquilliers, est orné de rides interférentes de houles et de courants donnant des figures en râteaux. Il est abondamment peuplé de Macoma baltica. Ces petits lamellibranches vivent à quelques centimètres de profondeur. Ils se signalent en surface par des sillons radiaires irréguliers caractéristiques. Des souilles de poissons plats de 15 à 20 cm de large se rencontrent çà et là. Plus haut viennent des dépôts sablo-vaseux à Corophium, petits crustacés dont les traces en rosette ponctuent le sédiment. On trouve ensuite des vases gorgés d'eau sur lesquels s'aventure ici un petit crabe. Ces dépôts fins sont abondamment peuplés de néréides diversicolores, annélides dont un représentant est ici en quête de nourriture à partir de son terrier. Localement, ces sédiments entaillés de longs chenaux parallèles renferment des scrobiculaires. À la partie supérieure des grèves, la zone supratidale correspond au domaine recouvert par moins de 30% des marais. Largement développée à l'est du Mont Saint-Michel, elle comprend la haute Slick et le Chore ou Herbu. La haute Slick est une zone de transition où poussent les plantes pionnières halophiles. Dans ses chenaux et ses dépressions, exondés plusieurs jours chaque mois, vivent de petits gastéropodes de milieu saumâtre, les hydrobies. Ces formes millimétriques constituent des colonies innombrables qui se concentrent dans les lieux les plus humides, souvent à l'abri des herbes. Aux marges de l'herbu, on rencontre la salicorne en brin crassulescent. Ailleurs, la spartine, graminée aux touffes serrées, introduite en France au début du siècle et dans la baie du Mont-Saint-Michel en 1930. Elle s'y développa rapidement, favorisant les progrès de la sédimentation. Cette partie supérieure des grèves est caractérisée par un dépôt grisâtre très particulier au golfe normand-breton, la tangue. C'est un sédiment détritique, sablo-silto-argileux, contenant de 45 à 50% de calcaire. Ce dépôt fin, semi-perméable, est très favorable à la formation des figures sédimentaires, mécaniques ou biologiques, et à leur conservation. Ici, il gardera l'empreinte d'une méduse abandonnée par la marée. Plus loin, celle de pas d'oiseaux, parfaitement modelés. En mortes eaux, ces traces de pas donneront naissance aux premières fentes de retrait par dessiccation. Et l'été, l'exondation prolongée des tangues conduit à leur morcellement polygonal. Parfois, à la formation de copeaux curviformes, dont la tranche montre la structure feuilletée. Cette particularité essentielle des tangues s'observe clairement en coupe, comme ici sur la berge d'un chenal. On distingue une superposition de lit clair et de lit noirâtre. Un lit clair et un lit noirâtre constituent un doublet. Ils représentent l'apport d'une marée. Ici, un niveau fin retient plus spécialement l'attention par sa structure fendillée. Il se trouvait en surface au cours du dernier hiver et a conservé des empreintes de cristaux de glace élargis par dessiccation ultérieure. 15 cm de tangue se sont accumulés au-dessus de lui en 4 mois, jusqu'au tournage de ce film. Nous les voyons ici à la partie supérieure de l'image. Ainsi peut-on se rendre compte de l'importance considérable des apports annuels qui atteignent plus d'un million de mètres cubes. Au siècle dernier, les cultivateurs venaient prélever la tangue utilisée comme amendement sur les sols acides de la région. Les extractions atteignaient alors 500 000 mètres cubes par an. Elles devaient, d'une certaine façon, contribuer à l'équilibre sédimentaire de la baie. À l'est, près du bec d'Andenne, les tangues de la zone estuarienne abritée cèdent la place aux grandes plages sableuses bordées de dunes où les houles sont prépondérantes. Dans cette zone de transition, les dépressions de la plage contiennent des dépôts stratifiés montrant la superposition de lits de sable fin et de feuillets de tangue grise. Des structures lenticulaires, parfois déformées par effet de charge, apparaissent dans les coupes effectuées dans ce secteur. Au sud, dans la région de Chiruex, les houles de tempête engendrent des phénomènes sédimentaires particuliers. Ces houles poussent et concentrent vers la côte des coquilles de mollusques vivant plus au large. D'où des accumulations qui se plaquent sur l'herbu en langue coquillière de plusieurs centaines de mètres. Tels sont les principaux caractères du domaine supratidal qui nous fait insensiblement passer des grèves dénudées, le plus souvent submergées, aux zones entièrement couvertes d'un tapis végétal, inondées quelques jours par mois, voire quelques heures par an. Et sur les zones plus élevées, une prairie fine et serrée se développe, la pâture parfumée des célèbres moutons de Pré-Salé. Au sud-ouest du Mont-Saint-Michel, les terrains abandonnés par la mer ont suscité depuis longtemps des désirs de conquête. D'importants travaux d'endiguage et de canalisation ont été réalisés à partir du milieu du 19e siècle. La mer, à la faveur de fortes tempêtes, eut bien quelques revanches occasionnelles, mais de vastes surfaces ont été conquises et aménagées, en un mot, poldérisées. Les polders s'étalent jusqu'au pied des collines boisées de l'arrière-pays, à plusieurs kilomètres vers l'intérieur. Ces reliefs correspondent à une falaise ancienne. Elle bordait la mer, il y a 8000 ans environ, lors de la transgression flandrienne. Depuis, malgré l'élévation générale du niveau marin, le rivage s'est éloigné car le fond de la baie s'est progressivement comblé avec l'apport d'une quinzaine de mètres de sédiments sur lesquels se trouvent de riches cultures. Et nous l'avons vu, le comblement se poursuit aujourd'hui à un rythme accéléré. Aussi, le Mont-Saint-Michel risque-t-il de se trouver bientôt dans la situation du Mont Dol, baigné par la mer il y a 3000 ans, maintenant isolé au milieu des cultures. Les terres blanches qui entourent ce rocher granitique sont d'anciennes tangues très fertiles. La menace semble donc bien précise. Pour sauvegarder le site du Mont-Saint-Michel, des recherches ont été entreprises sur une maquette du laboratoire d'hydraulique de France à Maison-Alfort. À l'échelle de 1/500e en plan, elle couvre 650 mètres carrés. Un générateur de houle permet de simuler l'action des marées et des tempêtes occasionnelles. Des nacres artificielles représentent les sables, des poudres de bois les tangues. On observe bien la transformation perpétuelle des fonds si caractéristiques dans la baie, le transport par drainage et les tendances à l'accumulation sur le haut des grèves. Ainsi, les mouvements sédimentaires ont pu être reconstitués très fidèlement avec accélération du déroulement du temps. Un cycle de 12 minutes représente une marée de 12 heures et 7 jours d'expérimentation, une année réelle. Ce modèle réduit est ainsi devenu un merveilleux outil scientifique permettant de prévoir l'avenir. De ces expériences qui ont duré plus d'un an, il ressort en premier lieu que si rien n'est fait d'ici à une quinzaine d'années, l'épaisseur des dépôts aura progressé de 2 à 3 mètres, réduisant considérablement l'insularité du mont. D'autres essais ont permis d'étudier différents aménagements susceptibles de favoriser le maintien de l'environnement maritime. Il conviendrait surtout d'amplifier l'effet de chasse créé par le retrait des eaux à marée descendante. Ce résultat pourrait être obtenu en aménageant le barrage construit sur la rivière Couesnon, dont l'embouchure borde le mont. Ainsi, les eaux de flot seraient emmagasinées, puis relâchées brusquement à marée basse. Sur le même principe, un réservoir artificiel de 400 000 m3 permettrait d'évacuer les dépôts accumulés à l'est de la digue, ici à droite de l'image. De même, une brèche dans la digue route, en renforçant la puissance des courants, contrarierait la sédimentation. Mais un nouvel accès devrait être construit. En attendant, chaque marée menace un peu plus le mont. L'homme parviendra-t-il à garder ce site exceptionnel dans son caractère maritime? Nul doute qu'à court terme, les travaux envisagés donneront des résultats satisfaisants. Mais à l'échelle des temps géologiques, l'évolution naturelle reprendra inexorablement son cours. Sans doute façonnera-t-elle alors un nouveau visage à la baie du Mont-Saint-Michel. Thank you.